9h-11h, Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Merci de nous rejoindre pour faire le tour de la question avec Julie. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Et à la une ce matin, le cri d'alarme des médecins psychiatres. Trop de fous sont dans la rue, trop de malades mentaux laissés sans soins. On le vit, on le voit, on le sait. Nous avons tous croisé ces malades dans le métro, dans les lieux publics. Les services psychiatriques sont débordés. Témoignage inquiétant ce matin, mais pour trouver des solutions pour demain, pour soigner, pour mieux accompagner, pour protéger ces malades et pour nous en protéger aussi. Et puis à 10h, j'accueille un grand ponte de la paléoanthropologie, spécialiste des grands singes. Il s'appelle Pascal Pic. Il milite pour une meilleure connaissance de ces animaux et de leurs intelligences, alors que l'intelligence artificielle devient notre quotidien. On vous attend sur ces sujets, on vous écoute surtout au Standard d'Europe 1, notamment sur la première question. Vos témoignages sont nécessaires, utiles, voire indispensables, Julie.
Au 39-21, et vous avez le hashtag Europe 1 pour les réseaux sociaux.
Bienvenue jusqu'à 11h.
9h-11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec 100 psychiatres qui ont signé hier une lettre adressée à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pour dénoncer les lacunes dans la prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales en France, dépression, schizophrénie, bipolarité. Vous êtes l'un d'entre eux, professeur Antoine Pellissolo, bonjour.
Bonjour.
Chef du service de psychiatrie de l'hôpital Henri Mondor de Créteil, vous avez publié « Retrouver l'espoir pour une psychiatrie positive ». On va parler de tout cela et de cette lettre remise à la ministre qui traduit donc une urgence, mais aussi le désarroi dans lequel manifestement vous vous trouvez au quotidien.
Tout à fait. Alors le désarroi de la plupart des équipes de psychiatrie, probablement des familles aussi, hein. Je pense que tout ça est partagé par toutes les personnes concernées. Alors le problème est très large et très compliqué, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Nous, la demande assez pratique et qui normalement peut être résolue, celle-là je pense,
oui.
C'est de bien utiliser les moyens qui sont affectés à la psychiatrie, ce qui ne sont probablement pas encore suffisants, c'est sûr, mais on connaît l'état des finances publiques, mais au moins que les moyens qui sont théoriquement affectés à la psychiatrie soient bien utilisés pour la psychiatrie et pas pour d'autres choses.
Quand vous parlez de moyens, de quels s'agit-il?
C'est les enveloppes financières qui permettent de financer les hôpitaux publics en majorité,
oui.
Les structures de soins publics, et donc le système français fait que la psychiatrie est financée par une enveloppe globale, ce qui n'est pas le cas des autres disciplines. Par exemple, dans les autres disciplines, on travaille surtout à l'activité, et donc c'est les actes qui sont rémunérés. Là, il y a une enveloppe globale, et le problème, c'est que comme cette enveloppe est donnée de manière inconditionnelle aux hôpitaux, ils ont tendance parfois à l'utiliser pour d'autres besoins qui sont considérés comme plus urgents ou pour combler les déficits malheureusement qui existent.
Et la psychiatrie devient
au détriment de la psychiatrie.
Ouais. Ouais, dans le plan santé aussi, la psychiatrie n'a pas la place que vous souhaitez qu'elle ait. Voilà pourquoi aussi les grèves se multiplient dans les services psychiatriques aujourd'hui. L'autre actualité passe tout cela sous silence, mais là encore c'est votre quotidien.
Alors, ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a quasiment en permanence des services en grève. C'est quand même étonnant, mais on peut se dire qu'il y a des... Alors les malades sont soignés, et heureusement les soignants font leur travail, mais ils sont tellement découragés qu'ils disent on n'en peut plus. Certains obtiennent par exemple, des postes supplémentaires, ce qui prouve que ce n'est pas des demandes aberrantes. Il y a des besoins. Quand on n'est pas assez nombreux pour s'occuper des personnes, forcément on fait moins bien et on prend des risques et les choses s'aggravent. Donc le seul recours, nous, dans nos spécialités, c'est les moyens humains. C'est le soin, c'est avant tout du temps à passer avec les personnes malades. Et si on retire des postes, on retire du soin, tout simplement.
La réalité, c'est qu'on sait mieux diagnostiquer ces maladies mentales aujourd'hui, qu'on n'a pas assez de lits, que les temps d'hospitalisation sont plus courts et qu'on peut donc croiser tous des hommes, des femmes qui parlent seuls, qui ont des comportements très inquiétants. Ce sont des malades qui sont donc dans la rue et qui ne sont pas suivis comme ils devraient l'être aujourd'hui, professeur.
Alors, c'est vrai que c'est un des risques. Alors, il existe et c'est vrai que ce côté visible des choses est parfois très impressionnant, spectaculaire, peut être un signal d'alarme. Alors, nous, on sait que ça existe malgré ça. La plupart des gens qui souffrent en silence, on ne les voit pas, ils ne sont pas dangereux du tout, du tout, du tout.
Oui.
C'est eux qui sont dans la douleur et souvent leur famille. Alors c'est vrai que quand en plus on voit des gens qui sont vraiment visiblement très très mal à l'extérieur, cela dit, l'extérieur pour nous ça compte beaucoup. Il ne faut pas que les gens soient enfermés, c'est pas ça le but. Hein. C'est juste qu'ils soient bien soignés à un moment donné pour qu'ils puissent reprendre une vie normale. Et le fait d'être malade, d'avoir une maladie mentale n'empêche pas de vivre normalement auprès de tout le monde dans la cité.
Pourquoi ce problème se pose de manière criante? Parce que justement, on diagnostique mieux ces maladies.
Il y a beaucoup plus de demandes, évidemment. Comme on sait maintenant qu'il faut s'occuper des enfants, qu'il faut s'occuper des femmes enceintes quand elles risquent d'avoir un bébé ou avec toutes les complications possibles au plan psychique. Enfin, il y a tout un tas de situations auxquelles on prêtait peu d'attention. Maintenant, on fait attention à tout ça. Donc, il y a beaucoup plus de demandes. La population augmente, tout bêtement. Et puis surtout, on parle plus de ces choses-là. Donc, les gens demandent à venir nous voir. Et simplement, en gros, on a réduit, par exemple, les hôpitaux ont réduit de moitié les nombres de lits d'hospitalisation. Au départ, pour la bonne cause, pour faire plus de choses à l'extérieur, comme je vous le disais. Mmh. Mais de moitié, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a plein de gens pour lesquels on n'a pas de solution à un moment donné. Donc, on fait des suroccupations. Il y a des services où, au lieu d'avoir 100 patients, on en a 105. C'est quand même compliqué à organiser.
Il y a Béatrice Corva qui nous écrit sur Twitter, hashtag Europe 1, une réforme totale de psychiatrie devrait être mise en œuvre. Je pense au modèle de certains pays voisins. Ce n'est pas forcément plus de lits la solution, mais que les psys, par exemple, aillent chez les patients, y compris à domicile.
Alors c'est une tendance générale qui est tout à fait bonne, c'est d'aller plutôt vers les gens, effectivement, que d'attendre juste qu'ils viennent quand c'est trop tard. Mmh. Et puis surtout les aider à rester, je vous disais, dans leur famille, dans leur travail, etc., dans la société. Et ça, c'est vrai qu'on a beaucoup progressé. On a les outils. Alors un plan, moi, je pense que c'est même plus que ça. C'est ma petite idée là-dessus, parce que ce n'est pas forcément partagé par tout le monde, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un secrétariat d'État, une secrétaire d'État à la santé mentale, parce qu'au sein de la médecine, c'est une part très importante de la santé mentale. Ça ne concerne pas que les malades et la psychiatrie, ça concerne tout à chacun. On a tous à améliorer notre santé mentale.
Oui.
Et il y aurait vraiment un pilotage de ça. C'est très complexe. Donc il y a toutes les structures, consultations, hôpitaux de jour, hôpitaux. Ça demande vraiment une organisation que pour l'instant, personne n'a réussi à améliorer depuis 20 ou 30 ans, c'est plutôt le contraire. Donc c'est quelque chose de très fort qu'il faut mettre en place, qui se déciderait forcément au niveau national.
Voilà pourquoi vous appelez à une grande journée de mobilisation mardi prochain, place de la République, avec tous les psychiatres et les unités concernées. 12 millions de personnes en France seraient touchées par ces maladies mentales, des dépressions aux troubles bipolaires, des services psychiatriques débordés, des services en grève, des médecins qui alertent donc le gouvernement régulièrement. Dans un instant, je vais donner la parole à Florent. Il a été diagnostiqué schizophrène, il est soigné depuis plusieurs années, il est devenu lui-même aide-soignant et il veut nous donner sa part de vérité sur ce sujet-là. Nous entendrons aussi une maman de malade, comment les accompagnants gèrent aussi cette réalité. On se retrouve dans un instant, vos témoignages à l'avenant, ma chère Julie, au Standard d'Europe 1.
Le 39-21. Pour parler de la mobilisation des psychiatres, nous recevons le professeur Antoine Pellissolo, auteur d'un abécédaire de psychiatrie positive intitulé « Retrouver l'espoir », le livre paraît chez Odile Jacob.
Avec ce cri d'alarme d'une centaine de psychiatres qui ont remis une lettre il y a quelques semaines à la ministre de la Santé pour témoigner du manque de moyens, trop de malades mentaux aujourd'hui dans la rue, sans suivi, sans soins suffisants en tout cas, ils sont là pour en témoigner aujourd'hui. Et j'accueille pour faire le tour de la question Florent Babillotte. Bonjour Florent.
Bonjour, je voulais juste revenir sur une chose. Quand vous m'avez présenté, vous avez dit Florent Babillotte, schizophrène. Alors on dit plutôt une personne atteinte de schizophrénie, car je ne me définis pas par une maladie, je suis avant tout un être humain. Je suis aussi écrivain et conférencier et aide-soignant. Je voulais juste revenir sur ce point parce que ça me semble important, même si je pense que ce n'était pas votre démarche.
Non, pas du tout. J'ai résumé de manière maladroite. Je suis absolument navrée parce que justement, votre parcours témoigne de tout ce que vous avez fait pour vous sortir de cette maladie qui a été diagnostiquée assez tardivement. Il faut que vous nous expliquiez ça, s'il vous plaît, Florent. Vous avez 38 ans aujourd'hui et vous avez été diagnostiqué à quel âge pour votre schizophrénie?
Alors moi, j'ai été diagnostiqué à 24 ans, c'est-à-dire que de 13 ans à 24 ans, c'est le trou noir avec des crises, des bouffées délirantes, c'est un peu l'horreur. Hein. Moi, je dis souvent, c'est un film d'horreur, sauf qu'on est acteur dans ce film d'horreur, on entend des voix, on a des crises de paranoïa.
Oui.
C'est vraiment quelque chose de pas facile à vivre. Je compare ça un peu à quelqu'un qui ferait vous avez une crise d'épilepsie, sauf que c'est une hallucination, c'est-à-dire que quand je dis une crise d'épilepsie, c'est qu'on est épuisé après les hallucinations. Les gens ne se rendent pas compte, en fait, il n'y a pas beaucoup d'études sur ce sujet.
Oui.
Et c'est vrai qu'après une hallucination, c'est quelque chose d'épuisant. C'est aussi une envolée intellectuelle, parce que généralement, ce sont des gens peu intelligents qui arrivent à avoir des hallucinations. C'est comme un rêve onirique, sauf qu'on est acteur dans ce rêve.
Oui.
Et c'est vrai, pas forcément acteur, ça dépend, mais... Enfin, en tout cas, acteur du point de vue neurologique, mais c'est vrai que c'est épuisant psychologiquement. Et il n'y a pas assez d'études sur ce sujet, notamment.
Mais on peut imaginer ce que vous ressentez entre 13 ans et 24 ans lorsque vous essayez de lutter, de combattre tout ce qui vous arrive, ces démons, entre guillemets. Comment vos parents vous accompagnent dans ce mal-être, ces ressentis?
Alors, mes parents, ils m'ont beaucoup aidé, mais ils ne l'ont su qu'à 24 ans.
Ah,
C'est-à-dire
oui.
que de 13 ans à 24 ans, pour eux, j'étais un adolescent turbulent,
oui.
certes, mais voilà, comme un adolescent comme tout le monde. Et moi, je me cachais, en fait, quand j'étais pas bien. Je restais enfermé des heures dans ma chambre à faire semblant de jouer aux jeux vidéo. Ou alors, c'était une lutte intérieure, vous savez, c'était... Quand vous avez une crise de paranoïa, une hallucination auditive ou visuelle, moi, il y a une phrase que j'aime bien, que je dis, c'est une voix nommée l'autre dans mon livre, La Obscure Clarté. Et du coup, c'est vraiment ça, c'est une voix nommée l'autre. C'était cette voix que j'avais, que j'ai pu maintenant, je l'ai appelée l'autre.
L'autre, c'est-à-dire que c'est
ça,
une petite voix qui est en vous et qui vous ronge et qui vous
ouais.
dicte un autre comportement?
Oui. Et donc, du coup, il fallait lutter tout le temps contre. En fait, il y avait comme d'un côté la raison
oui.
qui vous dit, bah, écoute, c'est pas possible que ce que l'autre te dit, enfin, cette voix-là, en tout cas. Et de l'autre côté, bah, il y avait cette crise de bouffée délirante, de folie, en fait, qui fait que, bah, on se demande qui nous arrive et on essaye de lutter. Et quand on est en crise, en fait, la crise prend le pas. Au bout d'un moment, on n'est plus en capacité de raisonner, quoi.
Oui. Et est-ce que vous savez d'où vient cette maladie qui est arrivée dans votre vie à l'âge de 13 ans, Florent?
Ah, j'aimerais bien. Je pense que ça vient d'un profond mal-être intérieur dans un premier temps. Je pense que ça vient aussi, il y a peut-être un aspect un peu génétique, même si dans ma famille, il n'y avait pas de... En tout cas, pas de cas connu. Peut-être qu'il y en avait, mais parce que c'est quelque chose de tellement tabou. Et c'est pour ça que je milite beaucoup, pour que ce soit beaucoup moins tabou, que j'essaie
oui.
de faire des passages dans des médias, des conférences, des livres, pour justement sensibiliser les gens. Parce que du coup, moi, dans ma famille, peut-être qu'une personne l'a eu, mais qu'elle n'a jamais osé le dire. Je sais qu'on avait eu une personne qui s'était suicidée du côté de ma maman, mais on n'a jamais su trop pourquoi.
Mmh. Et Florent,
c'est souvent des choses qui sont cachées, vous savez. Hein,
bien sûr.
Faut que ça cesse.
C'est le problème, en effet, professeur Pellissolo, de ces maladies aussi mentales dont on a honte, aussi bien lorsqu'on en souffre que lorsqu'on est accompagnant, parent, famille. On ne sait pas comment en parler. Florent a raison sur ce sujet.
C'est vraiment un des problèmes majeurs. Qui complique les choses puisque ça retarde les aides et les traitements.
Mmh.
Et alors, il y a le problème de la maladie elle-même qui crée une incompréhension. Je ne sais pas que je suis malade au départ quand
oui.
j'ai ce type de trouble,
oui.
évidemment. L'entourage ne voit pas forcément, c'est sûr, ne connaît pas non plus au départ. Hein. Ce n'est pas des choses qu'on connaît, qu'on apprend à l'école. Qu'est-ce que c'est que la santé mentale et le trouble de santé mentale? Et puis en plus, dès qu'on évoque le mot, ça fait peur. Et
oui.
donc on se referme. Et donc on ne veut pas voir, on ne veut pas. Et parfois même les aides qui pourraient être présentes, bah, elles sont un peu lointaines, difficiles à accéder. Donc c'est tout ça qui malheureusement s'auto-aggrave, puisque plus on tarde, plus les choses en général s'accentuent. Donc il faut à tout prix donner accès.
Oui.
Je suis vraiment tout à fait d'accord avec vous. Il faudrait dans l'idéal qu'il y ait dans les écoles de la sensibilisation. Parce que moi, je sais que quand j'étais pas bien du tout, à partir de 13 ans, quand j'ai fait mes premières crises, je savais pas ce que c'était. Et du coup, si j'avais eu un professeur qui m'avait un peu expliqué la maladie, même rapidement, en fait, j'aurais compris rapidement, j'aurais été investigué beaucoup plus tôt, et j'aurais pas eu cette traversée du désert. Après, ça fait aussi ce que je suis aujourd'hui, mais si vous voulez, c'est quand même 10 ans de souffrance, on peut pas les enlever, quoi.
Oui, bien sûr, c'est terrible, et ça arrive, en général, ces maladies mentales, au moment de l'adolescence, professeur. Florent est vraiment dans cette cible, entre guillemets.
La tranche d'âge, vraiment... La plus concernée, c'est 15 à 25 ans.
Oui.
Alors, des fois, des choses arrivent aussi avant, c'est souvent d'autres types de troubles, et parfois aussi après, mais 15-25 ans. Et 15-25 ans, c'est l'âge où il faut construire sa vie, donc s'éloigner des bases familiales, etc.
Mmh.
Si on est fragile et si on est perdu dans sa tête et donc dans ses comportements, c'est toute la vie future qui va être impactée. Donc là, Florence est remarquablement...
a pu
être remarquablement récupérée, enfin, comme on dit, rétablie de ses troubles, ce qui est exceptionnel.
Merci.
C'est remarquable de pouvoir en parler ensuite, mais la plupart des gens qui perdent pied, après, ils ont pas de travail, ils sont exclus de leur milieu, de leur famille parfois,
oui,
et c'est une vie perdue. Et on voit l'impact humain que ça a derrière.
Ah oui, Florent, on va vous retrouver dans un instant.
Vraiment,
oui. Je voudrais que vous nous disiez justement voilà, ce que les traitements a créé comme changement en vous. Pourquoi vous avez choisi ce métier d'aide-soignant? Parce que ça, c'est très beau aussi. Et quels souvenirs vous gardez de ces soins aussi, de cet accompagnement? Parce que c'est ce que nous mettons aussi en lumière aujourd'hui, ce défaut de suivi, ce manque de moyens dans les unités psychiatriques. Restez avec nous, Florent. Merci beaucoup. Je rappelle un de vos livres, Obscure Clarté, Schizophrénia. J'ai tendu la main, le deuxième, édition Edilivre, avec le professeur Antoine Pellissolo. À tout de suite pour parler de ce problème de psychiatrie en France. Les psychiatres se mobilisent pour dénoncer les lacunes dans la prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales en France. Nous sommes avec Antoine Pellissolo, qui est chef du service de psychiatrie de l'hôpital Henri Mondor de Créteil.
Et Wendy. Avec le témoignage très fort de Florent qui aide-soignant aujourd'hui, qui a écrit deux livres sur le mal dont il a souffert pendant une dizaine d'années, la schizophrénie. Alors qu'un Français sur cinq souffre de troubles mentaux, de dépression, de troubles bipolaires aujourd'hui, que leurs entourages souffrent évidemment face au déni souvent de cette maladie. Florent, c'est ce que j'aimerais que vous nous disiez aussi, parce que pendant 10 ans, vous battez contre ce qui vous arrive. Vous nous parliez de ces bouffées, ces hallucinations, etc. Vous sentez qu'il y a quelque chose, mais est-ce que vous vous sentez malade ?
Alors, je vais vous répondre. Par contre, le deuxième livre ne traite pas du tout de la schizophrénie. Ça, c'est une belle histoire d'amour, justement, pour montrer qu'on peut être heureux.
Ah, c'est un roman, pardon. Voilà, très bien. Je lirai avec plaisir.
Le premier, voilà, parle effectivement de la schizophrénie. Alors, pour répondre à votre question, du coup, c'est vrai que, excusez-moi, je pourrais juste me redire la question, du coup, j'ai perdu.
Bien sûr. Est-ce que vous vous sentiez malade lorsque vous avez cette voix, ces hallucinations qui vous rongent au quotidien?
En fait, c'est très paradoxal comme sentiment, parce qu'en fait, d'un côté, je voyais bien, à certains moments du moins, qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. D'un autre côté, il y avait des moments où j'en avais aucune conscience, où pour moi, c'était devenu ma normalité, en fait, pendant 10 ans, d'avoir des crises par moment. Et puis, je savais que je retournais à un état normal à l'autre moment. Et pour répondre à votre question, je me sentais pas malade, je savais pas ce que c'était, en fait, je connaissais pas la maladie-là, moi.
C'est ça.
Je connaissais vaguement via certaines séries, mais je me voyais pas du tout comme la représentation qu'on peut avoir, comme vous savez, la représentation de peur en série, du mec qui fait peur, machin. Moi, c'était pas du tout mon truc, parce que c'était une lutte intérieure, mais on le dit très rarement, ça. Et c'est pour ça que je travaille avec le collectif aussi Schizophrénie, qui organise les journées de la schizophrénie je crois que c'est du 16 au 23 mars, oui, c'est ça, du 16 au 23
oui,
mars.
Oui.
Il y aura 200 événements, bon, ça va être top, et je m'engage avec eux pour justement faire avancer les choses. Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent, on parle des gens atteints de schizophrénie comme des gens qui peuvent être violents ou dangereux, alors qu'on ne parle pas, on le dit très rarement, que c'est souvent des gens qui sont fragiles et qui peuvent aussi se faire agresser. Moi, j'ai bossé dans des hôpitaux psychiatriques, et j'ai vu que nous, on est des personnes, en fait, plutôt fragiles, et ça peut arriver, effectivement, qu'une personne atteinte de schizophrénie fasse une crise et un comportement inapproprié, ça peut arriver. Mais c'est très rare, en fait. Si on regarde les statistiques, c'est très rare. Et il y a beaucoup plus de personnes, entre guillemets, normales qui vont commettre des... même si je n'aime pas ce terme-là, normal, je ne vais pas opposer les
oui,
gens.
Oui, hein, les normalités, le but, hein. Bien sûr, ce n'est pas le but. Mais qui vous amène pour la première fois dans un hôpital pour tenter de poser un diagnostic? Est-ce que c'est vous qui y allez? D'accord. Avec votre force intérieure ou votre entourage, vos parents?
Non, c'est ma famille qui m'y emmène. Alors, j'accepte l'hospitalisation rapidement.
Oui, c'est ça, parce qu'il faut accepter. Hein. Ce n'est pas toujours le cas, professeur Pellissolo, d'accepter.
Ans, en fait, que ça n'allait pas, donc je me suis dit, bon...
On peut difficilement accepter des soins quand on pense
qu'on n'est pas malade.
Être malade et que c'est les autres, par exemple, qui sont malades, qui sont les menaces, etc. Donc, il y a tout un travail d'accompagnement qu'il faut faire, si possible, en amont, parce que quand on arrive un peu tard, ça, on en vient à quelque chose d'un petit peu contraint, et c'est là que c'est le plus douloureux, c'est-à-dire qu'on est obligé d'imposer des soins. Ça, on est obligé de le faire par moment, mais il faut à tout prix l'éviter, quand même.
Oui, plus on prend tôt ces maladies, mieux c'est.
Avec le psychiatre, monsieur, c'est très, très intelligent ce que vous dites, parce que je l'ai aussi expérimenté en tant qu'aide-soignant. Quand une personne arrive sous contrainte, c'est très, très, très difficile de lui faire entendre qu'il faut prendre un traitement, c'est pour ça qu'il faut avoir un gros travail en amont, et c'était très vrai ça.
D'où la nécessité, comme vous parliez de ce congrès des schizophrènes, d'avoir des modèles modèles en miroir comme vous, comme votre parcours, notamment Florent, des jeunes qui parlent aux jeunes, voilà, des témoignages aussi de souffrance.
Moi, ça m'a beaucoup manqué quand j'étais au fond du trou, et Dieu sait que je l'ai été. Quand j'étais enfermé dans une unité, je ne pouvais pas sortir, c'était très compliqué intérieurement. Et je me disais, mais c'est dingue, il n'y a personne qui s'en sort. Et on n'avait pas de modèle positif, à mon époque en tout cas.
Oui.
Et je ne voyais pas de modèle positif de gens qui s'en sortaient. Et c'est vrai que certaines associations comme l'UNAFAM, ça m'a beaucoup aidé, parce que quand j'ai vu qu'ils faisaient de la sensibilisation sur des gens qui étaient atteints de maladies psychiques, mais qui ont réussi leur vie, par exemple comme John Fornash, qui est un célèbre théoricien, notamment la théorie des jeux, en économie, il a eu le prix Nobel en 1994. Il y a un film génial sur lui, ça s'appelle Un homme d'exception. Le livre, c'est Un cerveau d'exception.
Oui, on se souvient de
Diana Sarr, je crois, c'est ça.
Oui. L'Union nationale, vous parliez d'avancer. Ouais. L'UNAFAM, c'est l'Union nationale de familles et d'amis des personnes malades et ou handicapées psychiques. On va recevoir une maman, justement, qui est bénévole à l'UNAFAM, Florent. Et dans un instant, le témoignage du chef du service psychiatrie au CHU de Clermont-Ferrand. Il s'appelle Pierre-Michel Liorca. Il veut témoigner aussi sur cet état d'urgence en matière de psychiatrie. Tous vos témoignages sont très éclairants aussi sur ces mots. Il faut prendre le temps de les accompagner, de les suivre, de les comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui les psychiatres tirent la sonnette d'alarme, parce que les moyens ne sont pas suffisants. À tout de suite dans ce tour de la question avec Julie.
Le tour de la question sur les services de psychiatrie qui sont débordés, alors qu'un Français sur 5 souffre de troubles mentaux, de dépression, de troubles bipolaires, d'autisme ou de schizophrénie. Wendy Bouchard.
Et le cri d'alarme des professionnels qui ne veulent pas laisser ces malades mentaux en liberté. Les soins sont nécessaires, le suivi également. Ils ont adressé une missive à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pour être entendue sur la gravité de la situation. Pierre-Michel Liorca, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous qui êtes à l'écoute de cet échange et notamment du témoignage de Florent depuis quelques minutes. Chef du service psychiatrie au CHU de Clermont-Ferrand, Pierre-Michel, vous êtes co-auteur de Psychiatrie, l'état d'urgence. Vous témoignez aussi de la souffrance de vos services face à la souffrance justement des patients, des malades qu'on a entendus il y a un instant.
Oui, tout à fait. Enfin, tous les éléments qui ont été évoqués sont vraiment la réalité quotidienne partout en France. Nous, dans ce travail qu'on a fait avec Marion Le Boyer sous l'égide de la Fondation Fondamentale, c'est vraiment une réalité qu'on a pu approcher, puisqu'on a travaillé avec beaucoup de professionnels, avec les associations de patients. Vous avez cité l'UNAFAM, on a travaillé et on travaille très largement avec eux et d'autres associations. Et on met en évidence cette discordance qui existe entre cet accroissement des demandes, qui a été très bien souligné par Antoine Pellissolo d'un côté, et petit à petit, une érosion des moyens dont on dispose et l'incapacité en plus de pouvoir mettre en œuvre véritablement dans notre pays toutes les innovations qui existent de plus en plus dans la prise en charge de la pathologie psychiatrique, mais qui ont des nécessités de formation et de moyens.
Est-ce que c'est qu'une question de moyens ou de redéploiement de moyens? Est-ce que tout doit se passer dans l'enceinte des structures, des unités psychiatriques, des établissements spécialisés, où on peut aussi sortir la psychiatrie des hôpitaux, et notamment pour prodiguer une aide à domicile, comme le disait une auditrice tout à l'heure?
Il faut absolument sortir la psychiatrie des hôpitaux, c'est une tendance très importante, mais simplement pour aller dans le sens de ce que disait Antoine Pellissolo tout à l'heure, si on regarde de début des années 90 à 2011, il y a 55 000 lits d'hospitalisation qui ont été supprimés et 15 000 places de prise en charge ambulatoire qui ont été créées. Et bien que le compte n'y est pas. Or, en fait, l'idée, ce n'est pas de supprimer des lits en supprimant des lits, puisque nous avons besoin de structures de soins hospitalières, mais de redéployer ces moyens vers l'extérieur. Et donc là, on voit bien que quand on ferme des lits, en fait, on perd des moyens. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est pas forcément un abondement à l'infini des moyens, mais c'est simplement que la fermeture des lits, qui est souvent faite avec une logique médicale d'un côté, mais aussi une logique comptable de l'autre, elle ne se fasse pas au détriment des patients. Et on a besoin de moyens ambulatoires, c'est extrêmement important. Les prises en charge à domicile, c'est quelque chose qui a pu se faire dans le passé, dans l'organisation sectorielle, qui doit vraiment se développer. L'hospitalisation à domicile, comme ça se fait dans de nombreuses autres disciplines, est indispensable. Et en fait, une fois de plus, déjà au moins la garantie que les lits qui seront fermés, ces moyens seront redéployés
absolument.
Absolument, dans tout, enfin, le niveau total de lits sera redéployé vers l'extérieur.
Sinon, vous avez le sentiment d'être dans une situation de non-assistance à personne en danger aujourd'hui, Pierre-Michel Liorca?
Dans un certain nombre de cas, effectivement, on jongle, comme c'était évoqué, avec les possibilités d'hospitalisation, les possibilités de prise en charge, avec les files d'attente. Il y a des endroits du territoire où il y a vraiment une disparité extrêmement importante avec des niveaux de médicalisation extrêmement faibles, et vraiment c'est très très difficile. Et la difficulté, c'est la coordination, ce qui a été dit par Antoine Pellissolo. Il parlait d'un secrétaire d'État, nous dans le livre on évoquait la création d'une agence, d'un opérateur, vraiment qui puisse coordonner tout ça. Il y a des moyens, il y a des initiatives, il y a de la volonté, mais il n'y a pas de coordination.
Oui, avec en plus Antoine Pellissolo, des maladies qu'on doit suivre sur le long terme. D'abord, un diagnostic qui ne s'établit pas si facilement, donc un suivi très important, très lourd pour ces patients.
Ça va de, on a dit même l'information au départ, mais ensuite le diagnostic qui peut relever de compétences très spécialisées dont on dispose. Et vraiment, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, les psychiatres sont formés à dépister, à diagnostiquer ces maladies parfois de manière assez subtile. Et ensuite, comme vous le dites, en gros, c'est toute la vie de la personne qu'il va falloir construire, enfin aider à construire. Et je pense notamment à la question de l'hébergement, parce qu'on il faut arrêter d'hospitaliser trop souvent les personnes, sauf que certaines personnes ne sont pas autonomes, malgré les traitements qu'on peut mettre en place pendant un certain temps. Ils ont un handicap, on appelle ça un handicap psychique, ne peuvent pas vivre seuls, ils n'ont plus leur famille présente. Et dans ces cas-là, on cherche des lieux de vie, tout simplement, des lieux de vie un peu adaptés, un peu spécialisés. Et comme malheureusement, là aussi, il y a un déficit gigantesque en France, les places qu'on a fermées dans des hôpitaux, on ne les a pas créées ailleurs. On cherche des places dans des foyers, ça peut durer, des foyers spécialisés un petit peu pour ces handicaps-là, ça peut durer des années. Donc on a des personnes qui restent à l'hôpital alors qu'elles sont à peu près stabilisées, en attendant juste, d'une part, qu'en gros, on ait ouvert les droits. C'est très bizarre, mais il faut un an pour qu'on dise « Ok, on va étudier le dossier à la MDPH, la maison qui s'occupe des personnes handicapées, parce qu'elles sont débordées. » Alors quand on nous dit « Ce n'est pas une question de moyens », si, là, c'est une question de moyens.
Oui, et là, pour le coup, cette personne occupe un lit qui pourrait être
exactement, et qui, pendant ce temps-là, n'est pas accessible à quelqu'un qui est en crise et qui attend aux urgences, etc. Donc c'est une chaîne très longue dans ces prises.
Florent, vous, quand vous avez été diagnostiqué schizophrène, que vous êtes entré dans un centre, vous y êtes resté combien de temps ?
Moi, je suis resté pas très longtemps, je suis resté un mois.
D'accord.
En fait, à Rennes, à Guillaume Régnier. C'est un souvenir que j'oublierai jamais, parce que dans un premier temps, c'était forcément, comme on peut s'imaginer, en tout cas, très très difficile. Hein. C'est quelque chose que je souhaite à personne au début, en tout cas, parce que moi, j'étais dans un autre monde, j'étais avec mes hallucinations, ma paranoïa, mes voix que j'entendais, cette voix nommée l'autre. Et c'est vrai que c'est ce que je raconte un peu dans Obscure Clarté, c'est y a un chapitre qui s'appelle de l'internement, de l'hallucination jusqu'à la résurrection. C'est tout à fait ça. Dans un premier temps, je vais vraiment être dans un monde onirique où je vois le mal partout, je casse mon téléphone, je crois que je suis sur table d'écoute, je menace de me suicider plusieurs fois si je vois pas ma copine. Enfin, il y avait ce genre de choses qui étaient très, très prégnantes.
Oui.
Et après, il va y avoir cette remontée vers la lumière grâce notamment à l'équipe soignante qui va être super, qui va beaucoup m'aider. Donc je me souviendrai toujours d'un infirmier un jour où je suis sorti du parc. J'ai eu le droit de sortir dans le parc à Guillaume Régnier, c'est l'hôpital psychiatrique de Rennes, en fait. Et du coup, il m'a positivé, il m'a dit on ne pensait pas que tu arriverais à t'en sortir si vite. On avait tablé sur 6 mois, 1 an d'hospitalisation. Finalement, tu vas peut-être sortir plus vite. Et il m'a donné des conseils. Enfin, il a vraiment été très dans l'empathie. Oui. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, quoi. Et je voudrais aussi revenir sur ce que disaient les deux monsieur tout à l'heure. Et je trouve que c'est très, très vrai. Ils ont vraiment raison. Il y a un gros manque de moyens. Ça, c'est clair, net et précis.
Vous l'avez ressenti, ça aussi? Oui.
En tant qu'aide-soignant, je le vois. Même moi, en ce moment, je bosse dans des maisons de retraite, même si je ne m'occupe plus de personnes atteintes de maladies psychiques, je le fais grâce aux conférences et aux livres que je fais. Mais par contre, il y a aussi un manque de moyens énorme. Et pour en revenir à la psychiatrie, il faut qu'on se pose une question encore plus globale que ça, je dirais. C'est un auteur japonais dont je n'ai plus le nom en tête, mais qui disait grosso modo, c'est étrange d'être normal dans un monde qui est fou. Il faut méditer là-dessus. Le monde devient un peu fou aussi. Parce qu'on nous en demande de plus en plus, avec des cadences de plus en plus soutenues. Et du coup, les gens, ils finissent en burn-out, ils finissent par avoir des soucis psychiques. Et c'est normal, au final, quoi. Parce que le monde nous en demande de plus en plus. Et qu'il faut, il faut retrouver un peu d'humanité, en fait, dans tout ça.
Et un peu de repère dans tout ça. Et ça passe aussi par un suivi, un accueil humain, précisément pour ces maladies qui sont des vrais troubles d'identité. Merci, Florent. On se retrouve dans un instant avec le professeur Antoine Pellissolo, chef du service de l'hôpital Henri Mondor de Créteil, avec Pierre-Michel Liorca, avec le témoignage d'Éric et Marie qui nous rejoignent au Standard. Beaucoup de réactions sur ce sujet. Et Jocelyne, qui est bénévole à l'UNAFAM, qui est maman et qui veut témoigner aussi de son implication dans le suivi de ces malades mentaux. À tout de suite sur Europe 1.
Trop de malades mentaux qui sont dans la rue, sans suivi, sans soins suffisants, sans psychiatre. On remet une lettre pour alarmer la ministre de la Santé. L'un d'eux est avec nous, Antoine Pellissolo, chef du service de psychiatrie de l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Il est votre invité, Wendy Bouchard.
Absolument, Julie, on fait le tour de la question avec des témoignages au service de cette actualité, de ce sujet fort et délicat. 2,5 millions de Français aujourd'hui pris en charge pour ces pathologies en établissement de santé. 12 millions de personnes en France qui seraient touchées de ces dépressions aux troubles bipolaires. Nous allons accueillir Eric dans un instant, mais nous sommes avec Jocelyne. Jocelyne est bénévole à l'UNAFAM. Jocelyne Viato, bonjour.
Bonjour.
Merci madame d'être avec nous. L'UNAFAM, je rappelle, c'est l'Union Nationale de Familles et d'Amis de Personnes Malades ou d'Handicapés Psychiques. Et Florent, qui a été atteint de schizophrénie, nous disait combien aussi il avait trouvé du secours et de l'écoute dans votre association. Vous y êtes engagée parce que vous étiez touchée par le sujet.
Je suis une maman dont l'un des 4 enfants souffre d'une maladie psychique.
D'accord.
Et je suis devenue l'une des 2,000 bénévoles de l'UNAFAM. qui est une association qui est née en 1963, qui est reconnue d'utilité publique et qui regroupe 15 000 familles adhérentes qui sont confrontées aux troubles psychiques d'un des leurs.
Oui.
Et qui accueille dans toute la France tous les proches de malades psychiques, bien au-delà, bien sûr, de ces 15 000 adhérents.
Oui, parce qu'évidemment, lorsque le malade souffre dans la famille, c'est tout l'entourage qui est touché hein, par ces maladies.
Bien sûr, et je pourrais vous parler du parcours habituel d'une famille qui est confrontée à la maladie psychique sévère d'un de ses proches. Alors souvent, il y a d'abord une longue période d'angoisse et d'incompréhension. C'est un jeune qui s'isole, qui arrête ses activités, qui perd ses amis. Il souffre manifestement, mais qui se cache aussi, comme nous l'a dit Florent. Mmh. Il a tellement changé, la famille ne le reconnaît plus.
Oui.
Et le retard au diagnostic est souvent de plusieurs années. Oui. Tous vos intervenants l'ont souligné. Et c'est une perte de chance que ce retard au diagnostic et cette souffrance qui n'est pas prise en charge. Et puis ensuite, pour la famille, tout bascule. C'est un vrai tsunami, c'est un mot que disent les familles. La personne malade est totalement immergée dans sa réalité. Elle vit un cauchemar éveillé, la souffrance est extrême. Alors la famille va appeler à l'aide les numéros d'urgence qui trop souvent en fait se renvoient la balle et obtenir de l'aide, c'est parfois très difficile.
Mmh.
Ça met dans des situations qui sont des situations d'urgence extrême.
Oui, et quand Pierre-Michel Lurca et Antoine Pellissolo, vous recevez des patients, vous êtes aussi dans le partage de la souffrance des familles. Et Jocelyne en témoigne aujourd'hui.
Alors il y a souvent, et c'est là qu'il y a des progrès vraiment à faire, c'est, comme disait très bien Jocelyne, on se renvoie la balle. Alors tout simplement parce que, en gros, notre système de santé en général, la médecine est organisée sur, évidemment, une démarche volontaire des personnes qui veulent être soignées. Mmh. Si vous êtes malade, vous allez vous-même vous faire soigner. Dans ces maladies-là, en général, il n'y a pas de demande. Et les structures de soins ne sont pas habituées à aller chercher des personnes qui sont malades chez elles, évidemment, et à imposer des soins, par exemple. Alors, je vous disais tout à l'heure, il faut éviter d'imposer, mais il faut quand même, à un moment donné, être très disponible, très ouvert. Et dans ces cas-là, qui à la fois font peur, parce qu'évidemment, tout de suite, il y a des comportements qui peuvent être un petit peu agressif avec l'entourage dès qu'on veut proposer des choses. Et donc, il faut répondre et il faut surtout accueillir les familles au moins pour connaître la situation, travailler avec elles pour préparer les choses et construire un projet de soins. Mais vous voyez, c'est une maladie très particulière dans laquelle la personne malade ne veut pas se faire soigner.
C'est
et ça n'existe pas dans les autres maladies.
Bien sûr, bien sûr. Et Jocelyne, il faut protéger aussi ces familles de cette violence que nous décrit à l'instant le professeur, parce qu'il y a des phases très violentes
oui,
aussi dans ces maladies.
Oui, mais bon, la violence est finalement un problème second. C'est surtout la souffrance.
Souffrance morale et mentale, bien sûr.
La souffrance psychique qui est intense, que nous a un peu décrit Florent, qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas connaître sans l'avoir vécu, mais qui est quelque chose d'absolument terrible. C'est vivre une espèce de cauchemar éveillé. Hein, c'est surtout ça qui est important. Et puis, qu'est-ce qui va se passer à l'hôpital psychiatrique où arrive finalement la personne, souvent un jeune, on l'a dit, ça commence souvent chez un adolescent ou un jeune adulte. Bah, souvent, la famille qui se sent mise à l'écart, elle se sent abandonnée à son incompréhension, à son angoisse.
Mmh.
Elle est aussi choquée car la maladie psychique, c'est toujours très gravement stigmatisée aujourd'hui. Et ça, c'est une de nos luttes, lutter contre cette stigmatisation. Et vous, les journalistes, vous pouvez vraiment nous aider hein, dans ce domaine.
Eh bien,
la famille ne comprend pas ce qui se passe. Encore trop souvent, la personne malade risque d'être enfermée dans une chambre d'isolement, ou pire, en contention, c'est-à-dire attachée sur un lit. Ça existe encore. Et encore plus, il n'y a pas assez de soignants pour apaiser la personne. Et là, on a encore une grande hétérogénéité dans les soins, hein, ce qui est un problème actuellement dans ce domaine, avec des endroits où ça se fait très très peu et d'autres où c'est presque routine.
Oui, vous avez raison. Je voudrais, excusez-moi, juste donner la parole à Pierre-Michel Lurca, parce que j'imagine que tous les services de psychiatrie essaient de jouer la plus grande transparence, mais qu'il y a encore en effet des lieux où se pratiquent des choses très dures à destination des malades. Vous militez aussi comme Florent pour sortir du tabou de ces maladies mentales, psychiatriques qui font peur, pour en parler, Pierre-Michel Lurca ?
Oui, enfin, la problématique de la déstigmatisation est essentielle. C'est vraiment quelque chose qui est complexe parce qu'effectivement, donc, il y a d'abord fréquemment une utilisation inappropriée des terminologies psychiatriques. On entend sans cesse parler de schizophrène, de psychotique, de paranoïaque, d'hystérique dans le langage quotidien qui ne reflète pas la réalité véritable de la maladie psychiatrique et la souffrance qui a été évoquée, qui est extrêmement importante. Quand on voit des dossiers sur la bipolarité dans les journaux où on parle de créativité alors que la bipolarité bipolarité, c'est une maladie qui peut être associée à une souffrance extraordinairement intense et avec des risques de suicide, par exemple. Il est important d'avoir vraiment un travail autour de de l'appréhension de la maladie mentale. La compréhension reste quelque chose de difficile. C'est vraiment une expérience du monde qui est particulière. Mais il y a vraiment tout un travail qui est un travail de la société dans son ensemble avec tous ses composants. Bien évidemment, les médias en font partie, mais je veux dire, c'est aussi le rôle de tous des pouvoirs publics, des professionnels et de se saisir, d'essayer de faire modifier je veux dire, cette représentation de la maladie mentale qui a des conséquences sur la manière dont les gens sont pris en charge. On évoquait la dangerosité tout à l'heure au début de votre émission. Je veux dire, cette représentation de la dangerosité des patients ayant des troubles psychiatriques, elle reste très présente dans tous les baromètres santé qui ont pu être faits, notamment par l'UNAFAM ou par la Fondation Fondamentale. Et en fait, il est très important de lutter contre ce type de stéréotype parce que la maladie mentale peut être dans des cas extrêmement rares associés à des comportements dangereux, mais dans de nombreux cas sont associés à une vulnérabilité beaucoup plus importante et les gens ayant des pathologies psychiatriques, souffrant de pathologies psychiatriques, sont souvent plus vulnérables que les autres et doivent être protégés autant que faire se peut, en tout cas faire en sorte que la société soit moins abrupte avec eux, et ça c'est vraiment la responsabilité de tout le monde.
Oui, absolument. Pierre-Michel Yorca, merci pour ce discours. Je renvoie à votre ouvrage Psychiatrie, l'état d'urgence, paru chez Fayard il y a quelques semaines. Merci à Jocelyne Viato, bénévole à l'UNAFAM. Si vous êtes dans le cas de ces familles désarmées, rapprochez-vous de cette association, l'Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques. Vous y trouverez un grand secours. On peut dépister aujourd'hui ces maladies, professeur Antoine Pellissolo. Vous allez nous le dire et vous encourager même à un diagnostic précoce. Eric va nous parler de son cas. Lui est atteint de bipolarité, de schizophrénie. Il suit un traitement comme Florent et nous en fait état dans un instant. À tout de suite, Europe 1.
Plus de 100 psychiatres ont signé une lettre adressée à la ministre de la Santé Agnès Buzyn pour dénoncer l'insuffisance de la prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales, due notamment à des problèmes de budget. On fait l'état des lieux avec le professeur Antoine Pellissolo, qui est en studio avec nous. Il est chef du service de l'hôpital, service de psychiatrie de l'hôpital Henri Mondor de Créteil, et c'est lui qui a remis cette lettre à Agnès Buzyn.
Nous allons avoir en ligne Eric qui veut témoigner de ses pathologies, de son suivi aujourd'hui. Florent, ancien schizophrène soigné aujourd'hui contre cette maladie qui est aide-soignant. Quelques messages sur Twitter, Antoine Pellissolo, notamment une ancienne ministre, Marianne Monchamp, qui était ministre des Solidarités, je crois, pour le diagnostic précoce, pour l'hospitalisation à domicile, pour l'autonomie, pour la citoyenneté. Elle connaît bien le sujet, Marianne Monchamp.
Oui, elle s'est occupée de santé mentale, notamment avec nous. Vraiment, ce sont des mots-clés qui peuvent paraître des slogans, mais qui sont vraiment le cœur de notre démarche d'ouverture. Je crois que c'est ça peut être ça le mot. Pendant des siècles, en tout cas le 19e, 20e siècle, on faisait plutôt de l'exclusion, on faisait des asiles, on mettait les personnes très loin pour ne pas les voir et voilà, pour être tranquille. Aujourd'hui, c'est tellement... Alors je crois que tout simplement, le message, c'est qu'on est tous concernés. On a tous dans nos familles des personnes qui peuvent être touchées. On peut tous être un jour concernés par un burn-out, une dépression. Et donc, si on n'a pas un effort d'inclusion et d'ouverture, on se tire une balle dans le pied. Et on est entre, c'est la fraternité humaine qui est de dire ce sont des troubles comme les autres. Et donc, les soins doivent être comme les autres.
Qui peut faire le premier dépistage pour ces maladies, schizophrénie, alors, bipolarité
La première évaluation, comme pour les autres problèmes de santé, c'est le médecin généraliste. Qui peut déjà rassurer quand c'est en fait des choses qui peuvent être assez simples, et puis orienter dans un deuxième temps vers des spécialistes quand c'est nécessaire. Et aujourd'hui, on a normalement la structure qui le permet. Il y a des spécialistes, il y a beaucoup de psychiatres en France, contrairement à ce qu'on dit, il y en a plutôt beaucoup, même par rapport à d'autres
pays.
Donc
ce n'est pas un défaut de psychiatre, hein, le
c'est
fait
qu'il y ait une coordination. Ce n'est pas un défaut de nombre, c'est plutôt un défaut de repérage, de réseau. Certains travaillent de manière un peu trop isolée des autres. Ils font peut-être des tâches que d'autres pourraient faire, notamment je pense aux psychologues qui peuvent avoir un rôle très important pour décharger les psychiatres, par exemple, de tous les suivis de psychothérapie, alors que les psychiatres font très bien, mais malheureusement, les psychiatres, ils doivent aussi faire plein d'autres choses, et notamment le diagnostic et les traitements. Donc, je pense que c'est plutôt une question effectivement, d'organisation.
Et de méconnaissance aussi, on a un peu peur, pardon, c'est votre profession, mais d'aller voir un psychiatre, ça fait un peu peur, oui.
Bien sûr, parce que, bon, l'image, on est resté sur des images parfois assez traumatisantes. Il y a la question de la folie, et il y a cette incertitude de qu'est-ce qui va être proposé. Et donc, c'est logique que quelqu'un qui a eu des images comme ça, de, par exemple, de, des hôpitaux psychiatriques en tête, notamment, on a dit dans les médias ou dans les films, etc., refusent ça. Et donc, et tant mieux, parce qu'il vaut mieux faire les choses avant d'en arriver là. Mais forcément, il faut qu'il y ait un accueil, il faut qu'il y ait une écoute en disant, bon, et donc si on a appris à l'école, par exemple, que par moment on peut aller moins bien et que c'est pas une honte, c'est pas d'être anormal que d'avoir besoin de parler à quelqu'un, tout simplement, d'en parler à son médecin, d'orienter vers un psy, et on espère qu'en faisant ça, on évite les crises et les décompensations.
Avec le message d'espoir, c'est les traitements aussi. Eric et Florent, vous êtes traités, soignés. Bonjour Eric.
Bonjour Wendy.
Bonjour Eric, vous nous appelez d'Annecy.
Bonjour,
et merci parce que votre témoignage va nous donner pas mal d'espoir justement sur ces traitements. Vous avez été diagnostiqué il y a une dizaine d'années, bipolaire et schizophrène, c'est ça Eric?
Ça a d'abord commencé par un diagnostic schizophrène et ensuite le côté bipolaire.
D'accord.
Au bout d'un an.
Vous ressentiez quoi chez vous de particulier, de troublant?
Ouh là là, en 2005, c'était vraiment grave, c'était le début. J'ai mis des mois à m'en remettre. J'ai repris le travail, donc j'arrivais à travailler correctement. C'était même un boulot en équipe en 2008. Petit à petit, je n'ai plus réussi à travailler. C'est le fait d'avoir des problèmes au travail qui a indiqué le trouble bipolaire.
Oui. Vous avez été diagnostiqué à ce moment-là. Vous êtes suivi depuis avec un traitement qui vous permet de vivre normalement, Eric?
Voilà. C'est ça le message que je peux porter. Nous sommes des gens tout à fait normaux à partir du moment où nous prenons notre traitement.
Et voilà. Vous avez accepté aussi ce diagnostic, vous avez accepté ce suivi et accepté cette offre médicamenteuse, si j'ose dire.
Ça n'a pas été simple de suite. Le déni, hein, on le connaît, et beaucoup le vivent. C'est-à-dire qu'on se dit que ce n'est pas possible. On trouve une solution, on arrête les cachets parce qu'ils sont un petit peu embêtants. Et finalement, ben, on se rend compte qu'on est obligé de les prendre et qu'avec le temps, on en prend de moins en moins pour être stabilisé.
Vous êtes aujourd'hui au travail, Eric, et je voudrais qu'on termine aussi, merci de votre appel, Eric, avec Florent, qui exerce cette profession d'aide-soignant comme un symbole pour tous ceux aussi qui vous ont aidé quand vous avez été suivi dans cette épreuve. Florent, aujourd'hui, le traitement vous stabilise complètement?
Alors oui, alors je vais vous répondre très franchement oui et non, c'est-à-dire que d'abord je voudrais féliciter Eric, hein, c'est top ce qu'il raconte et ce qu'il a fait, c'est super. Effectivement, le traitement stabilise, ça c'est sûr, mais il faut pas se cacher derrière le traitement. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire aussi, il faut prendre son traitement, c'est sûr, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire à côté. Je pense à l'art thérapie, je pense à la musicothérapie, je pense à la marche, faire du sport, et en fait... Pour être bien dans sa tête, pour être bien dans son corps et son esprit, moi je crois beaucoup au principe d'interaction entre le corps et l'esprit. On dit souvent aussi que on a un deuxième cerveau au niveau du ventre. Hein.
Oui.
Je dis ça parce que du coup, parce que moi j'avais des crises de boulimie avec mes premiers traitements qui faisaient que, c'est des traitements où il y a des effets secondaires qui peuvent être un peu forts, mais j'ai patienté, j'ai quand même continué à prendre mon traitement, les dosages ont diminué. Et donc j'ai réussi à passer mon concours d'aide-soignant, je l'ai eu et je suis très heureux aujourd'hui.
Bravo,
génial,
vous êtes un exemple, content, un modèle, et on lira aussi votre ouvrage Schizophrénia. Vous nous rappelez le titre de cet ouvrage.
Et j'ai tendu la main.
Voilà, ça. Merci beaucoup, merci Florent Babillotte, merci professeur Antoine Pellissolo. On comprend mieux les raisons de la mobilisation mardi qui s'annonce à Paris, place de la République. L'appel des psychiatres pour plus de moyens, pour mieux encadrer ces pathologies, pour mieux soigner ces malades. Merci professeur.
Merci à vous.
Et à tout de suite pour parler de l'intelligence, des intelligences, celle des robots, celle des hommes et celle des grands singes, bien sûr. À tout de suite, Julie.
Europe 1, 9h-11h, Wendy Bouchard.